Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invitée est aujourd'hui Laurence Tacou, directrice d'une petite maison d'édition, d'une grande exigence intellectuelle et culturelle et d'une créativité étonnante. Je veux parler des éditions de Lerne, dont la publication des cahiers constitue un événement éditorial toujours très très attendu. Laurence Tacou, bonjour.
Bonjour.
Nous allons, si vous le voulez bien, essayer de comprendre comment vous vous êtes insérée dans l'histoire de cette maison d'édition, quelle est votre démarche, ce qui anime votre passion pour ce métier. Et chemin faisant, la perception que vous avez des liens entre le livre et ce qui fait le cœur de notre vie. Alors, à l'origine des éditions de Lerne, c'était dans les années 57-60, il y a eu deux personnes, Georges Besse et surtout Dominique Deroux. C'était un homme intellectuellement en marge.
Dominique Deroux était un écrivain, mais c'était aussi un provocateur. Et c'est un homme qui était très engagé aussi bien dans la littérature, mais aussi par la suite dans la politique, puisqu'il est allé en Angola à un moment donné, et qu'il a soutenu, disons, certains mouvements. Donc, c'était un personnage complètement à part, et je crois qu'il n'en existe absolument plus dans le paysage actuel. D'ailleurs, c'est très, très dommage. Il a publié plusieurs romans très intéressants, qui ont été réédités, je crois, récemment. Et puis, avec quelques amis, donc, dont ce Georges Besse, qui a complètement disparu, il a commencé à publier des textes qui étaient un petit peu, au départ, des pastiches.
Et alors, il y a eu un événement assez étonnant qui montrait quand même l'originalité de cette maison d'édition. Cette anecdote de l'avion, vous pourriez raconter ce qui s'est passé ?
Alors oui, ça m'a été raconté par quelqu'un qui était aussi dans les tout débuts de Lerne, à la fin des années 59, qui était un aviateur d'origine algérienne, je crois, et ami de Dominique. Et donc, ils avaient fait quelques polycopiés de textes qui étaient divers, tous des amis donc, de la famille, pour ainsi dire. Et pour la distribution, ils ont innové en allant les lancer donc depuis un petit avion au-dessus de Tours ou Angers, je ne sais plus. Ça a été un des premiers réseaux de distribution de Lerne, pour ainsi dire.
Qui est quand même assez original. Alors, Dominique Deroux n'avait pas choisi la facilité, puisque le premier cahier, en 1961, a été consacré à un poète quasiment inconnu, en dehors des cercles culturels bretons, c'est René Guy Cadou. Alors, c'était vraiment l'idée d'affirmer dans le bouillonnement culturel de l'époque la volonté de découvrir des personnalités ignorées ou...
Oui, c'est assez difficile de faire l'historique de ce cahier, mais ça a été le début des cahiers, pour ainsi dire, même si les cahiers d'alors ne ressemblaient pas du tout à ceux d'aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient pas encore cette remarquable couverture blanche avec le portrait de l'écrivain, qui était beaucoup plus mince. Je pense que sûrement ça a dû commencer, comme ça se passe souvent dans l'édition, par une idée qui a été lancée par quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Cadou ? Et puis Dominique a dû dire oui. Puis ça s'est fait comme ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses se font un petit peu spontanément.
Par instinct, quoi.
Par instinct. Et je ne pense pas que ce soit des choses qui sont mûrement réfléchies. On ne pense pas ni au commercial, ni à l'impact. Et on se lance dans quelque chose parce qu'on a envie de le faire.
Alors, jusqu'au cahier, lui, était plus assuré, puisqu'il était consacré à Bernanos. Là, pas grand risque, quand même.
Je crois quand même que si, parce que Bernanos était aussi un peu un écrivain maudit. Que cette grande formule des cahiers n'était pas si facile non plus à lancer. Et Lerne n'était pas connu. Je pense que ça restait quand même une gageure encore à ce moment-là. C'est juste le cahier d'après qui a été consacré
à Céline. Oui, ça c'est la grande gageure, parce qu'on a du mal à imaginer le coup de tonnerre qu'a constitué la publication de ce cahier consacré à Céline en 1963, car à l'époque, Céline était presque en enfer, quoi.
Ah, mais il était complètement, oui, c'est ça, il était, comme on dit en anglais, in the doghouse. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas en entendre parler, il était pratiquement plus publié, et vraiment, on ne voyait plus que son aspect antisémite, tout ce qui s'était passé pendant la guerre, etc. Donc il était absolument... ça a été un véritable, en effet, comme vous l'avez dit, coup de tonnerre à ce moment-là. Et puis c'était très peu de temps après la mort de Céline. Le cahier est paru, je pense, 2 ans après la mort de Céline, quelque chose comme ça. Donc le personnage, la personne de Céline était encore très, 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 très présente dans les esprits et, je dirais aussi, dans ce cahier, qui était remarquable parce que ça a vraiment... était le début des cahiers tels qu'ils sont aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire à la fois la forme et le fond. La couverture, c'est déjà la très belle couverture blanche.
La forme et le fond. Voilà. Je ne sais pas qui a été ce génial maquettiste qui a fait à ce moment-là les cahiers. il y avait ce que Dominique a voulu comme une formule, c'était beaucoup de textes inédits, beaucoup de témoignages et assez peu de travaux universitaires.
Mais dans les témoignages, l'intérêt dès le départ, c'est qu'il ne s'agit pas de témoignages hagiographiques. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour cirer les pompes.
Ah non, il s'agissait toujours de témoignages de première main. Il s'agissait de gens qui avaient bien connu Céline d'une manière ou d'une autre. Donc c'était vraiment passionnant parce que c'était tout le parcours humain aussi de Céline, pas seulement le parcours intellectuel et littéraire. Et à côté de ça, il y avait énormément de correspondances et des textes complètement inédits. Non, ça a été vraiment le début de l'Erne.
Des textes intelligents, parfois intello, mais avec quand même une certaine réserve, on le sent, à l'égard des critiques universitaires, dès le départ.
Oui, l'Erne a voulu se distinguer justement de nombreuses publications qui, entre guillemets, sérieuses, qui produisait toute une glose assez érudite.
Et ça marchait bien à l'époque, hein. Il y en avait dans les années 60.
Il y avait énormément de revues. Et l'Erne s'est voulu quand même différente. Et je dirais que c'est cette intensité, cette tonalité, cette vitalité qui en a fait quelque chose de très à part. Et justement, jamais hagiographique.
Il y a un paradoxe, parce qu'une certaine méfiance à l'encontre des critiques universitaires. Or, l'Erne a un succès, on peut le dire. Hein. Les cahiers de l'Erne ont un grand succès dans des universités à l'étranger, universités américaines, même en Chine. Alors, très peu de critiques universitaires, grand succès dans les universités. Pourquoi ?
Mais les universités ne sont pas spécialement intéressées par retrouver la même chose, si vous voulez, dans des publications qui sont faites en dehors de leur sein. D'autre part, il faut quand même préciser que les études et les exégèses qu'il y a dans les cahiers sont toujours de très très haut niveau. Il y a quand même beaucoup de chercheurs et beaucoup d'universitaires qui collaborent à l'Erne. Mais disons que ce n'est pas du tout la majorité des textes du cahier. Ça constitue un pourcentage, je dirais, d'environ 20% du cahier.
Alors là, c'est donc bien parti. Après Céline, il y a eu Borges, Parente, Michaud, Bureau, Ungaretti, Gombrowicz, Massignon et bien d'autres. Et puis, au début des années 70, passage de témoins. Dominique de Roux s'en va et passe la main à votre père, Constantin Tacou. Alors, franchement, c'est parce que la situation financière était très difficile, c'est ça la vraie raison de...
Je crois que l'Erne n'a jamais été une maison commerciale et effectivement, il y a eu des problèmes d'ordre financier. Mais Constantin Tacou et Dominique de Roux sont quand même restés amis et Dominique de Roux donc a créé les cahiers H en Suisse, enfin à l'âge d'homme, qui continuent d'ailleurs, il me semble, de paraître aujourd'hui.
Alors, votre père n'était évidemment pas le même profil que Dominique de Roux. C'était un élève macédo-roumain de l'historien Georges Dumézil. Il avait été cinéaste à l'UNESCO. Qu'est-ce qui lui a pris de prendre en main les éditions de l'Erne ?
Non, c'était un homme aussi qui avait toujours été très, très intéressé par la littérature. Vous savez qu'il venait de Roumanie, qui était un pays totalement francophone à l'époque, en tout cas. Et il recevait justement toutes les revues qui paraissaient juste après-guerre. En français, il était nourri de toute cette littérature et de tout cet esprit. Et quand Dominique, bon, qui habitait dans le même immeuble que lui, que nous, devrais-je dire, lui a demandé de s'associer, il est entré dans l'Erne à ce moment-là, tout à fait naturellement.
Alors avec lui, évidemment, la palette s'est élargie et on a vu arriver toute une série de textes concernant des gens de l'Est. Ça a été un axe essentiel, ça.
Je crois que, si vous voulez, dans une maison d'édition comme l'Erne, évidemment, les collections qui apparaissent sous un directeur, je veux dire, quand c'était Dominique de Roux, il s'agissait d'un certain type d'écrivain, qui était quand même aussi souvent des écrivains de droite.
Oui, ou même d'extrême droite. Hein.
Et même parfois d'extrême droite. Bon, on peut penser à Ungaretti ou à d'autres. Et des génies aussi en littérature. Avec mon père, il s'est agi plutôt effectivement d'auteurs allemands. Mon père aimait beaucoup le romantisme allemand et d'écrivains qui étaient assez peu connus, comme Karl Kraus, Musil,
Mehring.
Et puis la littérature fantastique l'intéressait aussi beaucoup. Il y a eu Jean Rey, il y a eu Lovecraft. Il s'intéressait énormément à la philosophie, donc il y a eu beaucoup de cahiers de philosophes. Il y a eu Levinas, il y a eu Nietzsche, il y a eu... Bon, Schopenhauer, il y a eu énormément de philosophie aussi à ce moment-là.
L'axe philosophie est devenu un axe important.
Très important à ce moment-là, qui n'existait pas du tout du temps de Dominique, qui était quand même beaucoup plus dans la littérature.
Alors vous citiez Lévinas, il faut dire que quand votre père a consacré un cahier à Lévinas, je crois que c'était en 1991,
oui.
Lévinas était pratiquement inconnu.
Il était inconnu, oui, oui.
Donc il y avait toujours cette idée découvrons, découvrons, quoi. Et pas n'importe qui.
Ça a toujours été ça, parce que l'Erne n'a jamais été là pour célébrer des gens connus. Je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, quoique parfois on peut découvrir des choses très intéressantes en faisant un cahier sur quelqu'un qu'on imagine connaître très bien déjà.
On en parlera à propos d'un cahier que vous avez dirigé d'ailleurs. Donc Lévinas, ça aussi, ça a été un choc, parce qu'on s'est dit, tiens, la France a un philosophe important là, qu'on ne connaissait pas.
Absolument, et je crois que ces cahiers, bon, quand même, ont le mérite de remettre dans l'actualité des auteurs importants qui sont quand même publiés par ailleurs chez d'autres éditeurs, mais souvent qui ne touchent qu'un petit public. Quand un cahier sort, c'est vrai que ça donne réellement un éclairage. Oui, on peut dire une consécration, c'est vrai.
Alors en 2001, après 30 ans de règne de votre père, c'est vous qui prenez la direction de Lerne. En fait, vous aviez été très peu associé jusque-là à la vie de la maison. Très peu.
Écoutez, j'avais un petit peu collaboré avec mon père quand j'étais étudiante, mais c'est toujours très difficile de travailler avec ses parents. Donc je vais trouver ma propre voie par ailleurs.
Vous étiez ailleurs, vous étiez l'Amérique du Sud.
En fait,
grand porteur.
Les écrivains
latino. La belle vie.
La belle vie, exactement. Et les écrivains latino-américains aussi, quand même.
Qu'est-ce qui vous passionnait tant chez ces écrivains-là? Parce que je crois que votre premier article, c'était dans Vogue. C'était sur Borges, je crois. Qu'est-ce qui vous passionnait tant chez les latino-américains? Et vous passionne toujours?
J'ai eu vraiment un coup de foudre pour l'Amérique latine quand j'y suis allée pour la première fois, tout début des années 70. Et puis, ce qui m'a plu dans les écrivains, c'est une époque quand même où il y avait pas mal de guérilla, etc. Et c'était, j'allais dire de mon âge, mais c'était dans l'air du temps. Je pense que c'est le romantisme aussi français qui fait qu'évidemment, on préférait Che Guevara à Pinochet.
Oui, c'est ça. Donc, le lien entre la littérature et l'engagement, quoi.
Voilà. Et tous les écrivains de l'époque étaient tous engagés d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas d'exemple d'écrivain, peut-être Octavio Paz, un écrivain qui ne s'est pas engagé réellement, mais à part lui, ils sont presque tous engagés réellement d'une manière assez forte.
Et votre panthéon, à vous, de tous ces grands écrivains-là, c'est quoi? C'est Borges en un
Moi, j'aime beaucoup Borges, Juan Rulfo, chez les Mexicains. Je trouve que c'est un des plus grands écrivains.
Très peu connu. Hein.
Très peu connu, mais un des plus grands écrivains de la littérature mondiale, très certainement.
Vargas Llosa,
qui pour moi est vraiment un géant de la littérature. Et je dirais humainement aussi quelqu'un de totalement exceptionnel.
Donc vous aimez au fond les gens qui ont des vies passionnées. C'est ça qui vous a intéressé aussi, ces gens-là, quoi.
Oui, mais je voulais préciser que j'ai cité deux écrivains, entre guillemets, de droite, comme Borges et Vargas Llosa, mais quoique Rulfo était plutôt de gauche. Mais ce n'est pas l'aspect politique, oui, mais leur œuvre réellement qui m'intéressait.
Vous ne citez pas Marquez dans votre panthéon?
Écoutez, moi je trouve que Marquez, c'est un écrivain très intéressant. Son succès était très très gonflé par rapport à d'autres écrivains, je pense, beaucoup plus importants. Et puis, disons que 100 ans de solitude ressemble singulièrement à l'œuvre d'un autre écrivain latino-américain, qui était Elena Garro, la femme d'Octavio Paz, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Los recuerdos del porvenir », à l'époque où
Marquez,
« Les souvenirs de l'avenir », que j'ai publié à l'aide sous le titre « La maîtresse d'Ixtapa », et dans lequel on retrouve en substance toute la structure de « Cent ans de solitude ».
Tiens, voilà une découverte pour Canal Académie. Alors, donc, vous terminez deux cahiers en cours et vous ne partez plus.
Si, je vais de temps en temps quand même, je continue à lire en Amérique.
Vous restez en place alors que quand vous avez pris en main les deux cahiers, vous n'aviez pas l'intention d'y rester.
Mais écoutez, vous savez, c'était difficile de reprendre Lerne. Comme je vous l'ai dit, ça a toujours été, il y avait des soucis économiques évidemment importants puisqu'on ne publie pas finalement des œuvres commerciales. Donc ça a toujours été compliqué. Et disons que ça a été un petit peu la pression, parce que Lerne, c'était la petite boutique de rue de Verneuil, tout le monde entrait là, des journalistes, des écrivains, des amis de mon père, des auteurs, des directeurs.
C'était très sympa.
C'était très,
très sympa. Un lieu de fermentation.
Extraordinaire.
Il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas de gauche, il y avait des gens intelligents.
Voilà. Et c'était tous les jours un flot de gens qui disaient « On a eu tellement peur que Lerne ferme, puisque les volets étaient fermés pendant 2 semaines, on se demandait ce qui se passait, il ne faut pas laisser. » Puis finalement, voilà. Je me suis trouvée prise au piège.
Alors, avec vous, évidemment, la maison a évolué. Alors, un tournant marquant, c'est la place que vous avez donnée, vous, aux auteurs vivants. Alors, pourquoi?
Pourquoi? Parce que je trouve particulièrement passionnant de pouvoir faire un cahier avec un auteur, que ça lui donne une couleur tout à fait particulière. On peut faire des cahiers passionnants avec des auteurs qui ne sont plus, mais c'est très différent. Et je trouve dommage de ne pas le faire tant qu'ils sont là.
Oui, quand ils se prennent au jeu, en plus.
Leur attitude est radicalement différente selon les auteurs, parce qu'il y a des auteurs qui ne veulent rien savoir, comme George Steiner, qui était très content qu'on fasse un cahier, mais qui ne voulait rien savoir et qui a eu le cahier une fois qu'il a été imprimé. Il en a été très heureux. Et ce n'est pas du tout un cahier géographique, il y a un vrai débat dedans, il y a des choses qui sont difficiles même pour Steiner. Et c'est un cahier qui est tout à fait passionnant. Mais lui, il s'est attaché au mât, il a mis de la cire dans ses oreilles, pour ne pas céder à la tentation de sa voix.
Donc Steiner,
en tout cas, il a refusé absolument. Et après, il en a pris connaissance à la dernière minute. D'autres auteurs sont très impliqués dans la constitution du cahier.
Alors, vous avez consacré toute une série de cahiers à des écrivains, bien sûr, hein, Duras, Gary, Léon et tout ça. Mais ce qui est frappant, c'est l'importance que vous avez donnée à la philosophie. Alors, Est-ce que ça veut dire que pour vous, la philosophie dans l'univers culturel de notre époque est presque plus importante que le roman et que les philosophes sont, au fond, les principaux témoins de notre époque? Est-ce que c'est ça, votre idée?
Écoutez...
Parce qu'il y a Lévi-Strauss, Chomsky, Ricoeur, Derrida, et ainsi de suite. Enfin, vous avez mis le paquet, quoi.
Oui, mais je pense qu'on est dans une époque dans laquelle il y a de très, très fortes interrogations et une très grande inquiétude face à l'avenir. Il se trouve qu'on est aussi dans une époque, bon, maintenant... Les noms que vous avez cités pour la plupart, sauf Chomsky, ils sont tous disparus dans les dernières années, ou très très récemment même. Je pense qu'on ne pouvait pas éviter de les interroger et d'avoir leur témoignage à ce moment-là. Que c'était Baudrillard, Lévi-Strauss, Derrida, Ricoeur. C'était très important pour moi de pouvoir, j'ose dire, les interpeller et leur poser une question qui puisse un petit peu nous aider.
Alors vous disiez tout à l'heure que vous fonctionniez à l'instinct. À Lerne, à la différence de la plupart des grandes maisons d'édition, il n'y a pas de comité de lecture, pas le principe.
Écoutez, à la place du comité de lecture, disons qu'il y a un canapé rouge sur lequel on s'assoit.
Dans vos choix, au fond, on trouve les traces de votre vie.
Comme je vous l'ai dit, pour un éditeur, ses publications sont un peu comme un portrait chinois, parce que forcément, il manifeste ses intérêts profonds. Et peut-être même à l'insu de lui-même, il se dévoile beaucoup.
Vous avez une très jolie formule, parfois, pour parler de ça. Vous dites que vous livrez les écailles de votre vie.
Mais écoutez, oui, je ne sais pas si ce qu'on arrive à voir sur ces reflets assez changeants, parce qu'effectivement, c'est assez... qu'éclectique, hétéroclite, si on voit la suite des publications récentes.
Vous choisissez un directeur différent pour chaque cahier,
oui,
pratiquement?
Oui, presque toujours, il y a un directeur ou deux directeurs, ce qui est toujours assez bien parce qu'il y a une bonne synergie. Justement, dans le cadre de directeurs, il y en a souvent un qui a un aspect, favorise l'aspect universitaire et l'autre qui va dans une autre direction. Donc, je trouve que c'est très équilibré.
Et vous leur fixez une charte éditoriale ou pas?
Oh ben, il y a une petite charte éditoriale, si vous voulez. Il y a quand même la taille du volume et qui est toujours et systématiquement, je crois qu'il y a une seule exception, le cahier Ricoeur. Sinon, les volumes sont toujours largement dépassés, ce qui est assez
donc,
difficile.
Donc, toujours la perspective la plus originale possible, mais toujours les textes inédits, les témoignages et puis quelques réflexions, quoi. C'est ça?
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça le vrai
mais,
principe.
Si vous voulez, c'est une formule qui paraît très simple, mais qui, dans la réalité, est très complexe à mettre en œuvre.
Et ne serait-ce que pour les inédits, parce que c'est quand même pas facile, parce que dans les inédits, il y a tous les textes qu'on ne trouve plus, mais qui ont déjà été publiés, donc il faut aller les rechercher, il faut les trouver.
Voilà, quand on dit inédit, cet aspect quand même relativement large, il y a les textes totalement inédits. Dans le cas d'un auteur étranger, il s'agit aussi des textes inédits en français, bon, ce qui simplifie un peu. Mais sinon, il s'agit des textes disparus, qui ont été publiés une fois dans un journal ou quelque chose comme ça. Donc, on peut dire des inédits. Et puis, toutes les correspondances.
Alors, dans un cahier comme le cahier Suran, la part d'inédit est considérable.
Énorme. Eh bien, je pense qu'on peut comparer...
C'est la moitié, c'est quoi c'est...
Moi, je peux le comparer à deux cahiers, si vous voulez, par son volume et par la richesse des inédits, qui seraient le cahier Céline et le cahier Derrida.
Ah, c'est ça.
Voilà, je dirais que les inédits la représentent presque la moitié du cahier, ce qui est énorme. Mais ça valait la peine de les publier, non à part, mais dans le cahier, parce qu'ils ont le pendant avec justement des textes, des exégèses historiques ou des témoignages qui sont tout à fait en corrélation avec ces textes. Et je pense qu'il fallait les publier de cette manière-là dans un premier temps.
Il faut combien de temps pour faire à peu près un cahier, hein? C'est quoi? C'est 2 ans? C'est 3 ans?
Moi, je dirais que le plus court, c'est 2 ans. Et le plus long, c'est un cahier qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est le cahier Gershom Scholem.
Ah, oui,
et qui a mis 26 ans.
Oui, alors c'est une histoire. Il faut peut-être dire qui est Scholem, parce que qui connaît Scholem, quoi? Pourtant, c'est un très bel esprit.
Je dirais très je ne peux pas trop en parler, parce que je le connais mal moi-même. Mais
On peut quand même dire que c'est un grand spécialiste de la Kabbale et de la
mystique juive, quoi. Exactement, c'est un grand spécialiste de la Kabbale et
grand
de la mystique
juive.
Un grand philosophe qui a dissocié complètement, disons, la politique de la religion. Ce qui lui a valu de ne pas toujours être très bien vu par certains mouvements, disons. Moi, j'ai été très surprise à la publication de ce cahier, qui est un cahier de très haute érudition quand même, qui a vu le jour sous la direction de Maurice Kriegel, qui a fait un travail extraordinaire. C'est qu'il y a eu un succès et un retentissement absolument incroyable et qu'au bout de 2 semaines, on a dû le retirer déjà parce qu'il était complètement épuisé.
Combien d'années? 28 ans?
28 ans à peu près, avec donc d'autres directeurs, un autre directeur de cahier qui s'est retiré et puis un très long temps où ce cahier n'a pas existé du tout. Et il a été entièrement repris par Maurice Kriegel en 2001 ou 2002, je pense qu'il est venu me voir et qu'il m'a dit « je reprends ce cahier ». Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est mis... à fond. Enfin, entre 2002 et 2010, c'est passé 8 ans quand même.
Et la récompense, c'est un... Et
c'est magnifique.
Très
c'est un très, très beau succès.
Alors, le prochain à sortir, c'est Bonne Foi?
Le prochain, c'est Bonne Foi, c'est ça.
Alors, Bonnefoy, c'est un itinéraire quand même étonnant, parce que vous n'étiez pas né pour son premier livre, 53. Vous n'étiez pas né,
non.
Pratiquement pas, vous étiez au berceau.
Ah si, je venais de naître, justement. Alors c'est...
Du mouvement et de l'immobilité de Douve. Avec un titre pareil, il a créé quand même un événement à ce moment-là.
Absolument.
Et ouais. On s'est dit, tiens, voilà un poète. Et puis après, il a diversifié son œuvre, il est devenu critique,
s'est mis beaucoup
au service des autres. Et là,
absolument.
Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans?
D'abord, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de cahier consacré à un poète. Je pense que les derniers devaient être René Char ou Michaud, ou Ponge peut-être. Ponge était aussi un cahier que mon père avait fait de son vivant. Et donc là aussi, un cahier plein d'inédits, très intéressant. Donc ce sera peut-être le quatrième cahier consacré à un poète. Il faut dire que c'est très difficile de publier aujourd'hui de la poésie et autour de la poésie. Bon, et bien que Bonnefoy soit un très très grand poète, c'est vrai que là encore, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour moi, dont j'espère beaucoup.
Donc on va voir, ça va paraître.
Je trouvais que c'était vraiment une œuvre tout à fait exceptionnelle. Et je trouve que son itinéraire aussi est passionnant.
Oui, parce qu'il est sorti de lui-même, lui. Il s'est mis au service des autres.
Complètement.
C'est quand même assez rare. Dans la liste des auteurs auxquels vous avez consacré donc des cahiers, il y a évidemment des académiciens. Donc, parmi les académiciens disparus, on citait Claudel, Mauriac, Claude Lévi-Strauss. Mais il y a aussi des académiciens vivants, René Girard et Michel Déon. Voilà. Ce qu'il y a de drôle, c'est que quand vous avez posé la question à Claude Lévi-Strauss, je ne dirais pas qu'il vous a envoyé promener, mais presque.
Si, il m'a dit non, ce n'est pas la peine. Il m'a dit je n'intéresse plus personne. Le structuralisme est complètement passé de mode.
Il a dit ça.
Oui, et vous allez au-devant d'un grave échec. Il faut laisser tomber ce projet, etc. Alors, j'ai insisté. Et puis, je lui ai dit à quel point j'y tenais. Et donc, j'ai commencé à suggérer des noms de directeurs de cahiers. C'était très difficile parce qu'il me disait non, non, non. Jusqu'au moment où j'ai dit Michel Izard. Et là, il m'a dit oui. Donc ça n'a pas été peut-être, ça a été oui. Et je pense qu'il y a d'autres gens, évidemment, il avait confiance en pas mal de ses, disons, disciples. Mais je n'avais pas mentionné quelqu'un avant de mentionner Izard pour qui il ait eu une confiance suffisante. Donc c'est Michel Izard qui vraiment s'est lancé à fond là-dedans et a fait un cahier remarquable.
Et avec lui, ça s'est très bien passé. Enfin, pas de...
Très bien passé. Et puis, je dirais qu'on voit comment l'itinéraire humain et le destin font l'itinéraire intellectuel et scientifique d'un homme.
On va laisser de côté le fond intellectuel et on renvoie au cahier lui-même, hein, la part de fécondité du structuralisme à travers Lévi-Strauss. Mais effectivement, là, le côté destin personnel est étonnant à travers le cahier. Son destin tient à une panne de voiture.
Le destin se manifeste d'une manière comme ça, un peu, pas ridicule, mais un peu anecdotique. Et en effet, il voulait faire de la politique, il était parti sur les routes avec deux chevaux, quelque chose comme ça, et ces deux chevaux est tombé définitivement en panne. Et là, voilà, il s'est tourné entièrement vers ses études. Si ça avait marché en politique, on n'aurait peut-être pas eu le grand scientifique qui est devenu Claude Lévi-Strauss.
Alors, ce que révèle aussi le cahier de façon admirable, c'est le choc de son arrivée au Brésil.
Absolument. Bien sûr, là, il y a des textes très, très importants. Et puis, toute la période de New York aussi est complètement essentielle. Et sa rencontre avec les surréalistes, qui quand même l'initie à ce qu'on n'appelait pas encore l'art primitif à l'époque, ou qu'on appelait l'art primitif, mais enfin, il s'agissait surtout de l'art océanien et de l'art amérindien. Et je crois que la rencontre avec Max Ernst, avec Matta, etc., ça a été fondamental aussi pour lui. Et je crois que, comme dans toute vie, les rencontres, c'est ce qui compte le plus.
Alors, pour affiner d'ailleurs la perception de son lien avec le surréalisme, il y a un autre ouvrage très intéressant, qui est celui d'une des grandes collaboratrices, principales collaboratrices de Canal Academy, Milly Julia, Lévi-Strauss, l'homme derrière l'œuvre, où on voit l'esthète, quoi, l'amateur d'art, de dessin, de musique. C'était un homme de tous les milieux, en fait, il aimait tout.
C'était, je pense, un homme de la Renaissance, on ne peut pas dire autre chose.
Ouais,
parce que, je veux dire, quand on comprend la globalité de sa pensée, l'intensité de sa pensée, ben, je veux dire, ça ne peut se trouver que dans cette époque-là.
Et donc, il est significatif que ce soit le premier anthropologue qui soit entré à l'Académie française, au fond.
Oui, et je pense qu'il est... Mais c'est aussi un grand écrivain, parce que quand on lit Christ tropique, ou le moindre de ses textes, on est frappé par la beauté de l'écriture. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Mais vous n'avez pas peur qu'aujourd'hui, pour les jeunes, la révérence dont il fait l'objet empêche de rentrer dans l'œuvre? On a un peu peur, quoi. Les tonnes d'hommages sur lesquels on a été écrasé à l'occasion de sa mort, à 18 ans, rentrer dans Lévi-Strauss.
Moi, j'avais le projet, malheureusement, on n'a pas pu le faire, de publier des textes de lui très courts, des articles parus dans la Repubblica que je trouvais très bien. On en a publié certains dans le cahier. Et je voulais les publier dans cette petite collection des carnets.
On y viendra,
je trouve,
très très belle collection.
Pour avoir une entrée dans l'œuvre par une petite porte, comme ça. Même la petite porte chez Lévi-Strauss, elle donne quelque chose dans une très très belle et très grande salle. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire.
Alors, autre académicien auquel vous avez consacré un cahier, c'est René Girard. Alors, avec René Girard, on est face à un cas exceptionnel aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui a conçu une clé d'explication du monde. Ça ne se fait plus, quoi. On est dans la démarche Hegel, Marx, c'est fini tout ça. Et lui, il a osé ça avec le mimétisme. Alors, comment ça s'est passé avec lui ?
Écoutez, moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi. D'abord, c'est le système, parce que c'est assez rare, au fond, aujourd'hui, d'avoir des penseurs qui ont réellement un système aussi construit, aussi spécial. Et le fait aussi qu'il ait été un peu exclu et mis au banc. Je veux dire, dans les années après le succès de ses premiers livres, il était très très peu accepté en France.
Par contre, aux États-Unis, on peut dire que c'est l'intellectuel français le plus célèbre dans les universités.
C'est vrai. Et Derrida était aussi un petit peu dans le même cas. Donc Girard a été reconnu récemment. Et c'est vrai qu'il est entré à l'Académie, mais il n'était pas reconnu dans les instances, disons, collégiales et universitaires françaises. Et je trouvais intéressant sa démarche. Aussi, tout ce système basé sur le mimétisme tout à fait passionnant. Donc, ce cahier a tenté de donner un aperçu à la fois de son œuvre et de ses implications dans notre société.
Et en même temps, c'était quand même un visionnaire, parce que c'était l'un des premiers à parler du retour du religieux.
Absolument.
Et à discerner les risques qu'il pouvait y avoir de lien entre la violence et une forme de sacré lorsqu'elle était poussée à l'extrême.
Exactement,
hein.
Exactement.
Ça montre très bien.
Tout à fait, sa théorie du bouc émissaire. Et puis, il y a quelque chose d'assez intéressant. Quand il est venu à Paris, j'étais assisté à une conférence d'un scientifique sur les neurones miroirs. Et donc, Girard était là. Et ce scientifique parle de ces neurones miroirs qu'on a découverts récemment face à l'Université de Turin. Il s'agit de neurones qui sont situés dans le cortex préfrontal, quelque chose comme ça. En gros, lorsqu'un individu regarde quelqu'un avoir une activité, ces neurones se mobilisent comme si la personne même avait cette même activité. Donc, disons qu'on découvre dans les sciences des effets du mimétisme qu'on ne soupçonnait même pas avant. Et ce sont des neurones qui sont très actifs dans, par exemple, l'apprentissage, l'éducation, etc.
Alors, je voudrais évoquer un dernier cahier, parce que vous l'avez dirigé, et je crois avec une certaine passion. C'est le cahier Déon. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Déon ? Il était l'invité de Canal Académie il n'y a pas longtemps.
Oui,
hein,
oui,
on lui a
oui,
consacré
oui.
Un portrait, l'essentiel. Qu'est-ce qui vous a fasciné ?
Écoutez, je suppose la même chose que vous. D'abord, je trouve que c'est un très grand écrivain.
Qui a tout fait. Hein.
Qui a tout fait. Il a été
roman, essai, critique, théâtre, tout. Quoi.
Exactement, dans beaucoup de domaines. Et puis, j'ai trouvé aussi sa vie particulièrement intéressante, parce que c'est aussi un homme qui a pris la route, qui a été aussi, qui a pris le contre-pied des idées reçues, très souvent. Les choses n'ont pas toujours été faciles pour lui. Et puis, il est allé vivre à l'étranger, il est allé vivre en Grèce, puis en Irlande. Il y avait quelque chose de très, très mystérieux chez lui. Parce qu'il a en même temps un côté solaire, il est tellement chaleureux, tellement sympathique, il a des qualités humaines extraordinaires. Et en même temps, derrière cette aveuglante lumière, je trouve qu'il y a quand même un mystère très, très profond. Et je ne suis pas du tout sûre que ce cahier l'ait réellement élucidé.
En tous les cas, ce cahier montre bien la multiplicité de ses enracinements. Quoi. Il n'est pas que français, il n'est pas que grec ni qu'irlandais, il peut être aussi portugais, enfin, des tas de choses. C'est une curiosité insatiable pour les êtres et la littérature. Quoi. C'est quand même...
Oui, tout à fait. Mais enfin, je veux dire que les personnages soient en Irlande ou en Grèce ou n'importe où, je dirais qu'il s'agit toujours de cet œil qu'il a sur l'humain qui est, je veux dire, tout à fait exceptionnel.
D'ailleurs, je citerai une phrase du préambule, c'est, elle est de vous. Hein. Vous dites « drôle, discret, généreux, attachant, gourmand de tout, à l'affût comme personne des nouveaux talents, cet exilé de l'intérieur aime les îles, les bateaux, les restaurants du 7e arrondissement, les actrices étrangères, l'art beau et Conrad ». Oui, au fond, il aime la vie, quoi.
Je crois qu'on peut dire ça, oui.
Donc, ça, c'est une expérience comme ça. Vous en sortez avec une connaissance quasi-épidermique d'un auteur ou pas ?
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi-même, je découvre beaucoup de choses que je n'avais pas soupçonnées avant.
Alors, à côté des cahiers de Lerne proprement dit, vous publiez également désormais les cahiers d'anthropologie sociale. C'est très impressionnant. Une collection qui bénéficie d'un parrainage exceptionnel.
Oui, oui. Cette collection était parrainée par Claude Lévi-Strauss.
François L'Héritier aussi.
Françoise L'Héritier et Philippe Descola. Enfin, nous publions là les textes, les travaux du laboratoire d'anthropologie sociale. Alors, ça a peut-être l'air un petit
peu... Du Collège de France.
Du Collège de France, qui a été fondé par Claude Lévi-Strauss.
Ça fait peur.
Oui, ça peut faire peur, mais c'est très intéressant. Et je dirais que là-dedans, on trouve des études qui sont aussi très en rapport avec l'actualité.
Alors, j'ai voulu faire un test. Je suis rentré dans l'un de ces cahiers, La guerre en tête. Et ce qui m'a frappé, c'est que, évidemment, ce sont des thèmes très très sérieux, hein, puisque là, c'est la notion de guerre du monde antique à aujourd'hui. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on sent, vous devez être très attentive à ça, on sent la volonté de nous ramener toujours aux enjeux d'aujourd'hui et à l'idée que ça permette de dégager une meilleure philosophie de l'existence. Quoi. C'est ça l'idée ?
Je pense que c'est aussi ça, l'anthropologie, c'est-à-dire de retrouver l'universel sous le particulier. Et donc tous ces anthropologues qui partent pendant 6 mois s'immerger dans une petite tribu d'Amazonie où on compte aussi avec les doigts de pied, pour penser à certains d'entre eux, on s'arrête à 20. Je crois qu'au-delà de ça, on arrive à dégager quelque chose qui correspond à notre société, qui nous aide à la repenser de manière fondamentalement différente.
Ça, c'est vrai dans le cahier sur la guerre, hein, puisque c'est celui que j'ai regardé de près. Ça demande du temps, quand même. Hein. Il faut s'y mettre. Hein.
Oui, mais je trouve que c'est très beau. Souvent, ils écrivent extrêmement bien, et il y a une espèce de poésie qui se dégage de ces textes. Et en plus, très souvent, il y a de très belles illustrations et des croquis et des choses comme ça. Et moi, je ne trouve pas ça aussi abrupt qu'on pourrait l'imaginer.
Non, parce que c'est troublant de voir là, par exemple, comment est analysé le lien entre l'univers des passions et toutes les pratiques belliqueuses de l'histoire. Quoi. Ça se répète tout le temps. Quoi.
Oui,
C'est la même chose.
Ce que dirait Girard.
Oui, mimétisme. Alors, à côté des cahiers qui sont donc des ouvrages lourds à réaliser et qui prennent beaucoup de temps, vous avez au contraire, vous, une collection de petits livres. Hein, c'est ça l'idée, la créativité d'un éditeur, d'être capable d'associer des choses qui sont apparemment très différentes. Une collection de petits livres que vous appelez des carnets. Alors, comment se fait l'articulation entre les cahiers? Parce que vous avez déjà plus de 80 carnets, ce sont des petits bouquins.
Oui.
Et quelle est leur finalité?
Je vais vous dire comment sont nés les carnets, il y a à peu près, je pense, 4 ans déjà. C'est venu après un cahier qui était particulièrement difficile à faire, particulièrement lourd, particulièrement gros, un des plus gros, le cahier Derrida. Et j'étais très fatiguée des cahiers, parce que c'est vrai que c'est épuisant pour les directeurs de cahiers, pour toute l'équipe de Lerne, pour moi. Et c'est une mise en œuvre, si vous voulez, on est mobilisé pendant très très longtemps par quelque chose de très 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 lourd. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais pourquoi ne pas publier des petits textes dans un format homothétique des cahiers, quelque chose qui circulera vite, qui sera en rapport avec la pensée de ces auteurs qu'on a publiés à Lerne, mais qui sera complètement différent.
Mais des auteurs majeurs, toujours. Hein.
D'auteurs majeurs, mais aussi
des textes rares.
Ce sont des textes rares, mais bon, maintenant, plus seulement des auteurs qui ont été consacrés par des cahiers. Il y a d'autres textes aussi. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte de la facilité de mise en œuvre de cette chose-là. Et ça nous a apporté une espèce de bouffée d'oxygène. Et en plus, c'est un peu des poissons pilotes, parce que très souvent, avec les cahiers, on publie plusieurs petits carnets. Comme par exemple, avec l'Odéon, on a publié des extraits de son journal, ou avec Girard, un texte sur anorexie et mimétisme. Tout d'un coup, ça a été une grande bouffée d'oxygène. Et puis, je me suis rendu compte que ça plaisait beaucoup.
Oui, un vrai plaisir en même temps.
Un vrai plaisir.
Et ça fait réfléchir. Alors, parmi les textes publiés, on peut faire allusion à ceux que j'ai regardés, moi, de près. Et effectivement, on est quand même dans le rare. Hein. Honoré de Balzac traitait des excitants modernes.
Oui.
Qui est allé chercher ça, c'est Balzac? Personne. Hein. Drieux de La Rochelle, ne nous la faites pas à l'oseille. Personne. Alors, il y a des textes étonnants, parce que des auteurs qui sont encore plus connus aujourd'hui, je pense à Gary, je pense à Sagan. Gary, le journal d'un irrégulier, je n'avais jamais vu ça.
Oui.
Comment vous êtes allé chercher quelque chose comme ça?
D'abord, il y a deux choses. Il y a ou des textes qui ne sont pas du tout dans les cahiers et qu'on trouve comme ça, ou bien des textes qui sont dans les cahiers, qui sont des cahiers épuisés. Alors, dans le cahier Gary, qui est un très bon cahier, il est épuisé aujourd'hui. Il y avait énormément de textes, donc j'ai repris là.
Et pour Sagan, par exemple, là, il y en a plein, il y en a 6 ou 7. Même plus, j'ai regardé Le Régal des Chacals. Comment vous avez trouvé un texte pareil? Parce que Sagan, Le Régal des Chacals, c'est ce à quoi on pense.
En fait, ce petit livre-là, c'est un recueil de textes politiques que Sagan écrit sur la politique, parce que je me suis rendu compte que Sagan avait beaucoup écrit dans la presse, que tout était perdu, parce que c'était très difficile de retrouver toutes les archives à droite, à gauche. Et donc, j'avais commencé par la publication de Bonjour New York, des petits textes sur le voyage qu'elle avait écrit pour elle. Ça a été un succès, mais absolument immédiat. Et je me suis dit, mais voilà. Et comme son fils, Denis Westhoff, venait de reprendre la succession de sa mère, ça avait été assez difficile.
Avec beaucoup de courage, d'ailleurs.
Beaucoup de courage, à cause des dettes terribles. Je suis allée le voir, il a été tout à fait d'accord. Donc on était les premiers à republier Sagan. Ensuite, ça a lancé une espèce de vogue, manifestement.
Non, mais ça vaut vraiment le coup de voir ça. Il y en a 8 ou 9, ça vaut le coup. Alors dans cette collection, vous regroupez également toute une série de textes de critique du capitalisme, y compris des grands textes du 19e. Alors il y en a un. Grâce à Lerne, on découvre le puits de sa méconnaissance culturelle. Le texte de Proudhon sur la célébration du dimanche. Ça, c'est un texte étonnant, ce texte-là.
Mais oui, mais vous savez pourquoi? Moi, j'y ai pensé parce que je parlais l'autre jour avec un journaliste du Figaro, Étienne de Montetti. Et il me disait à quel point c'était important pour lui que le dimanche reste un jour sacré, un jour où on ne vaque pas des occupations ordinaires, au commerce, etc. Et je comprenais assez bien ce point de vue, ça m'a paru vraiment intéressant. C'était le moment où il était question d'ouvrir tous les commerces le dimanche. Je trouve qu'il faut qu'il y ait une liberté. Bon, pour moi, je dirais quand même que la liberté, elle existe dans la mesure où on peut l'exercer. C'est-à-dire que les gens, les commerçants qui ont envie d'être ouverts le dimanche doivent pouvoir l'être, et ceux qui n'ont pas envie peuvent rester fermés. Et ceux qui n'ont pas envie d'aller faire des courses ne sont pas obligés de le faire.
Mais que Proudhon...
Mais c'était intéressant de retrouver ce texte de Proudhon. Et je travaille pour retrouver des textes comme ça avec François Livonnet, qui est un philosophe, et dont nous discutons de thèmes. Et puis, il va à la pêche lui aussi de son côté pour trouver des choses de cet ordre.
Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on pourrait évoquer aussi les romans, les essais, mais je voudrais plutôt, avec vous, aborder votre avenir dans le nouveau monde de l'édition, et puis quelques considérations plus personnelles, si vous le permettez. Alors, le monde de l'édition, c'est une tarte à la crème de le dire, est en effervescence. Certains responsables estiment que le livre est menacé à la fois en raison du développement de la concurrence d'autres formes d'activités culturelles, et puis aussi en raison des incertitudes que peut impliquer le développement des techniques numériques. Alors, dans votre créneau à vous, qui est très pointu, de publication de haute qualité intellectuelle et à forte valeur ajoutée, tout ça vous fait peur ou est-ce que vous abordez ça avec une sérénité
Vous savez, moi je crois quand même qu'il faut être lucide. On est vraiment passé de l'ère Gutenberg à l'ère Google. Il n'y a absolument rien à faire et c'est déjà en cours depuis un certain temps. Depuis longtemps, les jeunes téléchargent les musiques, les films, les ceci, les cela. Bon, maintenant, ce sera les livres.
Oui, mais la différence, c'est que la musique, on n'avait pas eu le temps de s'y préparer. Les livres, on a le temps quand même.
Mais la musique, ça a toujours mieux marché que la littérature. La librairie était déjà en grande difficulté. Donc maintenant, s'il y a un intérêt pour le livre via le numérique, moi je ne peux dire qu'une chose, tant mieux. Bon, évidemment, je déplore tout à fait ce que Google a fait parce que nous avons regardé tout notre catalogue et a été numérisé par Google. Et assez mal parce qu'ils ont fait une numérisation un peu sauvage, sans relecture, etc. Donc,
vous voulez dire que techniquement, ce n'est pas bon ?
Ah, techniquement, non.
Mais on ne dit jamais ça.
Mais on peut le dire. Parce que nous, quand on fait numériser, on fait une numérisation de très haute qualité, c'est lu, relu, etc. Il n'y a pas de coquilles. Tandis que
Google, il y a des coquilles.
Ils ont scanné un peu grossièrement des millions de livres et puis en avant la musique. Donc, c'est très fautif. Leurs exemplaires sont bourrés de coquilles.
Mais la numérisation...
C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais déjà, au départ, ils n'auraient pas dû le faire.
Oui, ils n'auraient pas dû le faire. Ils l'ont mal fait, donc, selon vous. Mais sur le fond, vous considérez que... Est-ce que ça met en cause le développement des livres chez les libraires, par exemple ? Ou est-ce que c'est une autre question, un autre réseau de distribution qui peut parfaitement exister à côté ?
D'abord, il y avait de grandes difficultés en librairie, déjà. Et je pense que de toute façon, on ne peut pas échapper à l'ère numérique parce qu'on y est. Ce que Google a fait, ils ont aussi numérisé des bibliothèques du 17e, du 18e, enfin, tout ce qu'ils ont pu numériser. Et de ce côté-là, ils ont sauvegardé quand même des choses très intéressantes. Et ils les ont mises à la portée de tout le monde.
C'est Gutenberg, au fond.
Oui, mais ça, je trouve ça bien.
D'accord.
Bon, ce qui n'est pas bien, c'est qu'ils aient violé le droit d'auteur. Ça, c'est une autre question qui va être sans doute résolue prochainement. Mais je ne pense pas qu'on puisse éviter ça. Je pense simplement qu'il y a eu une surproduction en librairie. C'est-à-dire à peu près, il y a environ, grosso modo... 4 à 5 000 ouvrages avec les rééditions qui paraissent chaque mois. Alors les libraires n'ont même pas le temps d'ouvrir les paquets.
Ça reste 3 semaines en pile, quoi.
Ça reste en pile ou dans la cave dans le libraire, dans les paquets, puis ça repart. Alors je veux dire qu'il y a des excès de publication, parce qu'il y a beaucoup de choses très inintéressantes qui sont publiées, notamment dans le domaine de la littérature, du roman, etc. Et ce n'est pas notre cas, parce qu'on publie quand même d'une manière peu, et c'est assez choisi. Donc je pense qu'on sera moins touchés. Je pense qu'on a vraiment à cœur, je ne suis pas en train de me lancer des fleurs, mais de faire des beaux livres. Et ça, je pense que ça va continuer, c'est-à-dire que les livres seront... Je pense qu'il y aura des tirages un peu plus petits, que les livres seront plus beaux et que les éditeurs choisiront un peu mieux ce qu'ils feront.
Ils vont être obligés de jouer la qualité, quoi.
Mais pour la qualité, puis pour le numérique, pour nous, si vous voulez, de toute façon, pour nos cahiers, ça s'y prête tout à fait parce que les chercheurs peuvent être intéressés par un article ou un autre, etc. Donc ça s'y prête, je trouve que c'est pas mal.
Vous considérez-vous qu'il y a combien de bons libraires en France et des gens qui s'intéressent passionnément aux livres ?
Moi, j'admire... énormément les libraires. Je les trouve extrêmement courageux et je dirais tous les libraires, je les trouve absolument formidables.
Oui, mais les très bons, c'est quoi ? C'est 1000
Très bons, non, mais je dirais, ils gagnent tellement mal leur vie et c'est tellement difficile, je dirais, ils sont tous très bons. Alors, évidemment, nous, on a des grands libraires qu'on connaît et des petits aussi, qui vendent très très bien nos livres. Moi, j'admire leur passion et leur courage. Je vois des petites librairies à Dieppe qui nous commandent des livres et qui vendent des livres, des choses quand même très difficiles. Et ils se font un devoir de vendre ce genre de choses.
Ma question.
Ils sont quand même 2000. Ils sont plus de 2000.
2000, ouais, oui. C'est déjà
moi,
énorme.
J'admire tous les libraires.
Et votre pourcentage de vente, si ce n'est pas indiscret, un pourcentage de vente par Internet, aujourd'hui, c'est quoi?
Si vous dites Internet, il y a deux choses. C'est notre numérisation et notre serveur Numilog.
Oui, oui.
Nous allons tout mettre sur la grande bibliothèque Gallica. On a à peu près 5%.
Oui, c'est déjà beaucoup.
Maintenant, si vous dites par Internet, si on compte Amazon,
oui, oui.
C'est
oui.
par notre réseau de distribution oui, oui. Solis. Par Amazon, c'est notre plus grande librairie aujourd'hui.
Ah oui, déjà.
Oui, forcément.
Ah oui, on voit donc la révolution. Alors, quelques questions plus personnelles pour terminer et revenir d'ailleurs là au cahier. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont carrément refusé qu'on leur consacre un cahier?
Oui. Alors, j'ai écrit par exemple à Kundera une lettre pour lui dire que ça m'intéresserait et il m'a répondu une lettre en me disant qu'il était très flatté mais que je pensais qu'il était beaucoup plus vieux qu'il n'était en réalité.
Parce qu'il voyait une horizon funèbre, lui.
Mais c'est... voilà, alors... Bon, alors ça m'a fait rire. Je n'ai pas renoncé, mais je ne l'ai pas encore relancé. On verra.
Puis il y a des agents réfractaires aussi, non? Parce que
mais non,
dans
mais
le monde
je veux dire,
anglo-saxon...
Le plus réfractaire, ça a été Lévi-Strauss, et ça s'est fait. Dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup de cahiers que j'aimerais faire, mais nous avons un problème là, ce sont les agents littéraires qui demandent des pourcentages avant même qu'on puisse parler du projet. Donc c'est très difficile de
les
faire
gros
des
sous,
projets.
Quoi.
Oui, mais on ne peut pas faire ce genre de projet quand il y a des agents qui...
Mais par exemple, pour qui ça a été bloqué à cause de ça, si ce n'est pas indiscret?
Moi, je voulais faire un cahier Le Carré. Bon, je renonce difficilement aux choses, donc j'espère que ça se fera un jour. J'aimerais beaucoup faire un cahier Norman Mailer. Et puis, des auteurs vivants américains, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup.
Alors, auteurs vivants français, si je suis bien informé, il y aurait un Patrick Modiano en préparation?
Oui, il y a un Modiano en préparation.
Ce sera pour quand?
Ce sera pour quand? Eh bien, j'espère que ce cahier ne mettra pas plus de 2 ans.
Alors, symbole de tout ce qu'il peut y avoir de merveilleusement passionnant dans votre métier, vous évoquiez tout à l'heure Jacques Derrida. Je crois que l'histoire de ce cahier-là est une histoire formidable. Enfin, formidable,
oui.
À la fois triste et formidable.
Mais je ne sais pas, on ne peut pas dire vraiment triste. Au contraire, je trouve qu'elle est quand même belle, cette histoire, parce que donc, lorsque ce cahier a commencé, c'était 2 ans avant sa mort, Derrida était très, très, très impliqué parce qu'il a voulu vraiment que soient rassemblés dans ce cahier tous les gens qui comptaient pour lui. Donc c'est devenu un cahier effectivement pléthorique et énorme, beaucoup beaucoup plus gros que la plupart. Bon, mais j'ai compris ce qu'il souhaitait et donc j'y ai souscrit. Et il est tombé très très malade à la fin et il était à l'hôpital lorsqu'il a reçu le cahier qui venait d'être imprimé. Donc il en a été très heureux et le cahier a été mis en vente la veille de sa mort. Donc ça a été comme un prolongement de lui-même si sa pensée était... dorénavant pérennisé. Et effectivement, il a eu une présence en librairie absolument extraordinaire pendant les 3 mois qui ont suivi sa mort. Et ce cahier, bon, évidemment, a très bien marché. Mais c'était étrange. C'était comme quelque chose qui avait été un peu écrit, par lui-même d'ailleurs.
Donc c'est à la fois un testament et l'établissement d'une filiation. Enfin, c'était...
Il était tellement présent dans ce cahier, il était tellement présent juste au moment de sa mort. Ça a été vraiment quelque chose de très spécial et très troublant et émouvant vraiment.
Donc je disais tout à l'heure qu'avant de diriger les éditions de l'Erne, vous aviez été grand reporter avec cette passion de la littérature latino-américaine. Et vous avez une autre très grande passion, si je suis bien renseigné, c'est les oiseaux.
Ah oui, j'adore les oiseaux parce que... J'ai été séduite par des oiseaux il y a très très longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, qui sont venus pondre sur ma terrasse et qui reviennent chaque année dans leur nid, parce que les palombes sont assez flemmardes, et alors elles rajoutent quelques branches dans le nid, mais elles sont toujours au même endroit. Et donc j'ai eu des bébés, et tout ça, a créé une grande passion. Après ça, j'ai eu des oiseaux apprivoisés, et maintenant, quand je marche dans la rue, je regarde toujours en l'air, parce que Paris est peuplé d'oiseaux, mais évidemment ils sont en l'air, donc il faut lever la tête.
Et ce qu'il y a de merveilleux, donc vous parliez du lien entre l'édition et la vie, donc les écailles de votre vie, c'est que j'ai regardé le catalogue dans vos livres, et comme par hasard, le grand historien Michelet, il y a un titre, La République des oiseaux. C'est
oui.
Délibéré, c'est ce...
Oui, c'est tout à fait délibéré. C'était dans une série sur les animaux. Bon, j'ai une grande amitié et sympathie et empathie pour nos cousins proches. Et donc voilà, les oiseaux, ça me paraissait couler de source. Et je veux dire que c'est pas d'aujourd'hui que date l'intérêt pour les animaux. Je veux dire, c'est vrai, Michelet, quand même un esprit très très sérieux, a dit des choses très belles et très émouvantes sur la paternité et la maternité chez les oiseaux.
Et la photo de couverture du cahier sur Lévi-Strauss avec l'oiseau sur l'épaule?
Ben voilà, on y est, parce que quand j'ai eu les photos de Lévi-Strauss, c'était des photos d'amis, donc des petites photos qu'il nous avait confiées pour le cahier. Et j'ai trouvé cette photo-là qu'une de ses amies, qui est une photographe d'ailleurs, avait fait de lui, avec un chouka qu'il avait recueilli, qui avait été blessé, qu'il avait apprivoisé. Et quand je l'ai vu, ça correspondait tellement à quelque chose de lui, il y a une telle corrélation entre cet oiseau et lui. Et lui-même a été tout à fait d'accord pour cette couverture. Je pense que c'était pas si évident de convaincre que voilà, c'était un peu son totem. Je pense que nous avons chacun notre totem.
Laurence Tacou, merci et bonne route aux éditions de Lerne. Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.